Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
250 km entre Abidjan et Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire a depuis jeudi sa première autoroute à péage, mais la nouvelle ne fait pas sourire les usagers de la route. C'est le thème de la première partie de ce magazine. Afrique 7 jours, en compagnie de Fréjus Kenhomme et Marie-Ange Piron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
En attendant de vous retrouver dans la rubrique Afropress, la revue des thèmes africains parue dans la presse allemande, un aperçu des grands thèmes dont nous parlerons.
Eh bien, il sera question en fin de parcours de l'économie sud-africaine qui n'est pas très vaillante. Mais pour le reste, Fréjus, c'est le Nigeria qui occupe aujourd'hui toute la place.
Merci beaucoup, Marion. J'ai tout de suite direction Abidjan. La Côte d'Ivoire a donc lancé jeudi 15 mai sa première autoroute à péage. La veille, le ministre des Infrastructures a communiqué les prix du passage. Cela varie entre 2500 et 10 000 francs CFA selon le type de véhicule. Apparemment, cela n'est pas du goût des transporteurs et les usagers sont inquiets. Notre correspondant Julien Adaye a visité le premier poste à péage situé à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan pour voir et apprécier ce nouveau service et prendre les réactions de transporteurs et usagers. Voici son compte-rendu.
Mardi dernier, lorsque le gouvernement fixait officiellement le coût du péage à 2500 francs CFA pour les véhicules personnels, 5000 francs pour les mini-cars de transport de 20 places, contre 7500 francs pour les cars de 70 places et 10 000 francs CFA pour les véhicules poids lourds, il s'était empressé d'ajouter que c'était les tarifs les plus bas du monde. Un commentaire de trop selon les transporteurs et usagers de la route qui estiment que c'est une grosse escroquerie de l'État avec ses prix très élevés qui n'ont rien à voir avec ceux pratiqués dans la sous-région. Une pilule difficile à prendre.
Nous ne sommes pas d'accord sur le poids péage, c'est trop cher et nous ne sommes pas d'accord. Et le vrai problème, nous avons un site de production jusque là et on a plus de 70 camions qui passent ici par jour. Vous imaginez, on n'a aucune mesure pour les résidents, ceux qui ont des sociétés. Comment on nous gère? On ne sait pas. On a posé le problème, on n'a pas de réponse. En clair, c'est cher. Et ceux qui habitent après le pont péage, quelles sont les mesures exceptionnelles vis-à-vis de ces personnes-là? Alors cet argent-là, ça va où? Juste pour rembourser l'investissement ou bien pour payer? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un problème. Donc qu'ils alignent les prix sur les prix de la sous-région.
Beaucoup d'automobilistes prendront l'autoroute avec le sourire, avait soutenu le porte-parole du gouvernement lors du dernier conseil des ministres tenu mercredi. Les transporteurs jugeant cependant excessifs les prix proposés par les autorités ivoiriennes et qui sont rentrés en application depuis jeudi, menaceraient de majorer les coûts des tickets de transport, ce qui risquerait d'impacter négativement le quotidien des populations.
Nous regardons le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, pour voir si cette tarification-là ne viendra pas encore nous enfoncer dans la misère.
Ça va entraîner une augmentation des prix en règle générale pour tous les camions qui font venir de la sous-région des produits vivriers et compagnie. La nourriture, en augmentant le prix du transport, la nourriture va systématiquement augmenter, ce qui va avoir une incidence considérable chez les petits consommateurs.
D'autres transporteurs et usagers soutiennent cependant que leur non-contribution à l'entretien du réseau routier a freiné la construction des infrastructures. Pour eux, le bon état des routes réduira de façon considérable le nombre d'accidents de la circulation et participera au confort des voyageurs.
Nous savons que dans les pays voisins, lorsqu'on a mis des autoroutes à péage, cela a suscité des fonds pour entretenir le réseau routier. Et avec le réseau que nous avons en Côte d'Ivoire, si nous avons plus de 1000 km d'autoroute, cela ne fait que faire plaisir à l'usager de la route que nous avons et susciter des fonds à partir du péage pour créer d'autres autoroutes ne peut faire que du bien à l'Ivoirien que nous sommes.
On est en 2014 quand même, hein. L'évolution avec la nouvelle technologie. Tu voyages, ton voyage est plus rapide. Ça va permettre aussi de pouvoir réparer les routes qui sont encore dégradées.
Pour nourrir notre curiosité, nous avons fait une irruption dans l'une des cabines à péage pour nous faire expliquer le mécanisme et le fonctionnement. Évariste Yapi, technicien installateur.
Il y a deux types de péage à faire. Il y a le péage manuel, bon, celui qui vient dans son engin physiquement, l'opérateur l'enregistre. Selon la classe, on lui donne un reçu, puis la barrette se soulève, il passe. Maintenant, il y a le péage automatique. Le péage automatique, tu achètes une carte PP rechargeable. Il vient, il tend la carte à l'opérateur. Elle dépose la carte sur un lecteur de carte. Le reçu aussi sort et on lui tend son reçu. Il a le montant, le solde de la carte et il passe.
Le tronçon Abidjan-Yamoussoukro est équipé de deux postes de péage. Après son ouverture à la circulation, l'ouvrage a connu son premier embouteillage long de plusieurs kilomètres, le temps que les uns se familiarisent aux machines et les autres à cette nouvelle façon de voyager. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Afrique 7 jours, la seconde partie avec Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande. Et c'est donc le Nigeria, Marie-Ange, qui domine cette semaine l'actualité africaine. Le sort des quelques 200 jeunes filles enlevées il y a plus d'un mois par la secte Boko Haram émeut les médias, surtout depuis que les Occidentaux, États-Unis en tête, ont proposé leur aide au Nigeria.
Die Tageszeitung, tout d'abord, rappelle à ses lecteurs comment est née l'organisation terroriste. Il est tentant, écrit le journal, de voir en Boko Haram un groupe d'islamistes illuminés, mais ce serait une erreur. Depuis sa création, il y a 10 ans, Boko Haram a cessé d'être une petite secte radicale pour se transformer en une puissante armée de guerre civile. Le groupe est né à Maïdougouri, la grande métropole commerciale du nord-est du Nigeria, lieu de rassemblement de chômeurs sortis des écoles coraniques et radicalisés par des prédicateurs fondamentalistes. Le journal rappelle aussi que lors de l'assaut donné en 2009 contre le quartier général de Boko Haram à Maïdougouri, les forces de sécurité ont tué son leader de l'époque, Mohamed Youssouf, et avec lui entre 1000 et 5000 civils. La campagne pour la libération des lycéennes, note le Tagesspiegel de Berlin, est devenue entre-temps une campagne américaine avec ses propres objectifs. Aux États-Unis, l'opinion publique réclame une intervention militaire américaine pour sauver les jeunes filles. Cette solidarité américaine, poursuit le journal, suscite au Nigeria un scepticisme grandissant. D'aucuns y voient une nouvelle forme de colonialisme. Le risque est grand que la perception extrêmement simplifiée du conflit au Nigeria ne se schématise encore plus. Heureusement, souligne le journal, les médias nigérians ont regardé de plus près l'origine du drame, Chibok. C'est ainsi que le journal en ligne Premium Times évoque une région délaissée dans l'état de Borno, une région qui se distingue par deux faits inhabituels. Les gens là-bas ne parlent qu'une seule langue, à savoir le Chibok précisément, et c'est la seule région dans l'état de Borno peuplée majoritairement de chrétiens.
Et les journaux, Marie-Ange, pointent aussi du doigt l'incapacité de l'État nigérian non seulement à retrouver les jeunes filles, mais aussi à venir à bout de Boko Haram.
Le Nigeria, écrit le Handelsblatt, est en train depuis longtemps déjà de détrôner la Somalie comme État le plus violent du continent. Depuis le début de cette année, 2000 personnes ont péri sous les coups de Boko Haram. Mais il aura fallu attendre l'enlèvement de près de 300 lycéennes et la totale indifférence manifestée par l'armée et le gouvernement au sort de ces jeunes filles pour que la communauté internationale tourne ses regards vers le Nigeria. Le kidnapping des adolescentes est le paroxysme provisoire d'une évolution qui a commencé il y a 5 ans et qui a fait que des régions entières du nord musulman échappent au contrôle du gouvernement central. Ni l'état d'urgence, ni la dernière offensive militaire contre les islamistes n'y ont changé quoi que ce soit. Au contraire, bien qu'un cinquième du budget de l'État nigérian soit affecté à la sécurité, la situation empire. Nombreux d'experts, poursuit le journal, présument que l'explication est à chercher dans le fait que généraux, hommes d'affaires et gouverneurs s'enrichissent massivement sur les fonds destinés à la lutte antiterroriste. La Süddeutsche Zeitung relève de son côté que dans l'émoi suscité actuellement par cette affaire de jeunes filles enlevées, on en vient à oublier que le théâtre du drame se situe dans un pays riche. Le gouvernement nigérian a lui-même proclamé, peu de temps avant l'enlèvement des lycéennes, que le pays était devenu la première économie du continent et avait même dépassé l'Afrique du Sud. Mais, souligne le journal, tant que la richesse pétrolière du Nigeria n'arrivera pas dans le nord-est du pays, il ne faudra pas s'étonner que des bandes de tueurs comme Boko Haram, avec leur message d'une grotesque simplicité, recrutent des adeptes et fassent régner la terreur.
L'Afrique du Sud, dépassée par le Nigeria en termes économiques, c'est vrai si l'on compare les produits intérieurs bruts et d'après les chiffres de la Banque mondiale. La manne pétrolière du Nigeria y est pour beaucoup, mais il est vrai aussi, Marie-Ange Fierrand, que l'économie sud-africaine est en train de fléchir. La presse se fait l'écho de cette évolution.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung, par exemple, Fréjus, hein, qui brosse effectivement un tableau assez sombre de l'économie sud-africaine. Officiellement, le taux de chômage est de 25%, officieusement 40%. Le gouvernement fait face à un mécontentement grandissant par des programmes sociaux à répétition qui font que l'endettement de l'État atteint maintenant 44% du produit intérieur brut. La crise économique mondiale, note le journal, a gravement pénalisé les exportations. Mais d'autres raisons sont d'ordre intérieur, entre autres les grèves sauvages dans le secteur minier ou la faillite du système scolaire public qui met sur le marché des jeunes non qualifiés et donc sans espoir de trouver un emploi. Que peut faire Jacob Zuma, demande le journal. L'arme miracle se nomme Plan national de développement. Il a été élaboré par l'ancien ministre des Finances, Trevor Manuel, et le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Il prévoit 11 millions d'emplois nouveaux dans les 20 prochaines années, grâce, entre autres, à des investissements massifs dans les infrastructures, des allègements fiscaux pour les entreprises et un assouplissement de la très rigide législation du travail. Ce plan, souligne le journal, est tellement libéral qu'il pourrait sortir tout droit de la plume de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Or, Zuma ne peut ignorer ni les syndicats ni l'aile gauche de l'ANC. Il y a donc fort à parier, estime le journal, qu'il préférera continuer comme jusqu'à présent.
Merci beaucoup Marie-Ange Piron pour ce tour d'horizon des sujets africains dans la presse allemande. Afrique 7 jours, c'est fini avec à la présentation Marie-Ange Piron et Fréjus Kenhomme. Merci beaucoup de nous avoir suivis.